Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Pendant longtemps, je me disais, ouais, j'ai les études supérieures, j'en ai pas fait. Tu sais, il y a un moment où j'ai même eu honte hein, dans ma vie. Je me disais, c'était une période où j'étais honteuse. Enfin, honteuse, je me disais, ouais, j'ai pas fait de grandes études, etc. Tout ce que j'ai vécu, je ne regrette rien. Excellent. Même si ça a été difficile dans le premier job, même... Voilà, de jongler entre les enfants et le travail, etc. Je ne regrette rien. Alors, ma carrière, elle a démarré, j'étais très jeune à l'époque. Je venais de décrocher un diplôme dans un lycée français, ici à Rabat.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invitée aujourd'hui, c'est Jeannette Bitti. Elle est coach, thérapeute et guide de méditation. Un parcours riche, beaucoup de changements et le destin, bien évidemment, qui a très bien fait les choses. Jeannette Bitti, bonjour.
Bonjour Karima.
Comment ça va?
Ça va très bien. Merci pour l'invitation.
Bah, tout le plaisir est pour moi. C'est un plaisir.
Ravie.
C'est un plaisir, oui. Jeannette, de discuter avec toi. Et justement, comme je le dis souvent dans Job Story, en quelque sorte, toute carrière a un point de départ. On va dire le jour où tout a commencé. Ramène-nous plutôt au tien. Comment est-ce que ta carrière professionnelle a commencé, a démarré?
Alors, ma carrière, elle a démarré, j'étais très jeune. À l'époque, je venais de décrocher un diplôme dans un lycée français ici à Rabat. Mmh. J'ai commencé en tant que salarié pendant des années dans une entreprise. Et puis ensuite, retour à Rabat, parce que c'était pas à Rabat que j'ai travaillé au tout début. Et puis ça a été une vocation, je dirais, plus que qu'autre chose. C'était avec les enfants. Donc j'ai travaillé avec les enfants pendant 10 ans. Mais avant ça, comme tu as dit, tout a démarré dans une entreprise en tant que secrétaire de direction à cette époque.
D'accord.
Ça remonte à longtemps, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Donc contact avec les clients, etc. Et puis j'étais toute jeune.
Justement,
travailler
jeune, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que pour peut-être les plus jeunes qui nous écoutent actuellement, est-ce que c'est quelque chose que tu encouragerais, le fait de découvrir le milieu professionnel avant qu'on soit contraint? De découvrir le milieu professionnel, c'est-à-dire après notre obtention de diplôme, CV, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent?
Ben écoute, ça dépend vraiment de chacun.
Mmh.
En tous les cas, moi, je l'ai très bien vécu, même si j'ai eu ma fille très jeune, donc je jonglais entre les deux.
Mmh.
Mais je trouve que c'est toujours de l'expérience. Hein.
Ouais.
C'est toujours de l'expérience. En plus, j'avais suivi une voie rapide. Donc, dans le lycée français, c'était la branche professionnelle que j'ai suivie. Donc, c'est un petit peu plus rapide parce que tu sortes directement dans le milieu pro, quoi. Tu travailles directement. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi cette voie-là. Et puis voilà, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes pour qui veulent travailler dès le début, dès leur plus jeune âge.
Mmh.
Et puis il y en a après qui reviennent aux études. Hein. Ça
vrai,
va dépendre du chemin de chacun.
C'est vrai mais qu'il n'y a pas un chemin déjà préétabli. C'est du cas par cas, chacun son histoire, chacun ses envies, ses ambitions. Au final, le plus important, je pense, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait, peu importe ce que c'est.
De s'écouter au maximum quand on peut et d'aller vers ce qui vibre le plus. Puis de toute façon... Chaque chemin, de toute façon, te ramène toujours vers quelque chose. Il n'y a pas de « j'aurais dû faire » ou « je
ne sais
pas ». C'est toujours des expériences qui nous forgent en fin de compte.
C'est vrai.
Chaque chemin que tu vas suivre finira de toute façon par t'amener vers quelque chose qui va te servir.
C'est vrai.
Ça va toujours te servir, d'une manière ou d'une autre, dans ta vie.
Et même si tu t'en rends pas compte au moment où tu le fais, plus tard tu t'en rendras compte en fait. Quand tu vas un petit peu remettre les pièces du puzzle, tu vas comprendre pourquoi ça s'est passé de cette façon. Et je pense que cette méthode de s'écouter, de faire des fois même dès le début ce qu'on aime, les jeunes d'aujourd'hui sont plus conscients de ça. Peut-être qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué. On avait des cheminements plus ou moins tracés. Il y avait des orientations qui étaient encouragées. On disait médecine, architecture, ingénierie, quelque chose de stable, de préférence étatique et tout. Mais je pense que les choses ont changé avec le temps et beaucoup de jeunes même commencent directement par l'entrepreneuriat carrément, sans passer par le salariat. Et je pense que c'est bien cette prise de conscience. Moi, franchement, à mon niveau, ça me fait hyper plaisir de voir ça, de voir des jeunes qui osent et qui s'écoutent dès le départ. Parce que sinon, après, on se retrouve à 45 ans, 50 ans dans une entreprise et on ne se sent pas forcément à sa place, mais on a des charges. On a une famille, on a... pour certaines personnes, des crédits, etc. Donc, ça devient plus compliqué de se défaire de tout ça.
Oui. En plus, ils s'affranchissent du regard des autres et des parents, parce que les parents veulent le meilleur, entre guillemets, parce que c'est leur meilleur à eux. Ils sont dirigés le plus souvent par la peur. Ils, ils préfèrent la stabilité, les métiers classiques, etc., qui les rassurent un petit peu plus. Et ça fait peur, ça fait peur aux parents. Tu dis, c'est bien parce qu'ils s'écoutent de plus en plus, ils osent se lancer. C'est vraiment dans l'inconnu.
C'est la prise de risque.
Exactement. Et puis ça, à l'école, on ne nous l'apprend pas. Faut risquer, il faut oser aller vers ce qui nous fait vibrer, etc. On nous apprend pas ça. On nous apprend plutôt, on a l'impression que c'est super difficile. Et puis aujourd'hui, il y a l'expression on gagne sa vie. On l'a, notre vie.
C'est
vrai. On a pas à la gagner, tu vois. Donc voilà,
c'est pas faux. J'aime beaucoup. C'est vrai que c'est pas faux. Mais après, pour revenir un petit peu brièvement au petit point des parents, c'est vrai que finalement, ce qu'ils veulent, c'est le meilleur pour nous. C'est nous voir stables financièrement, surtout parce que c'est le problème de base. Enfin, leurs préoccupations de base. Et puis, il y aura toujours, bien sûr, des médecins, il y aura toujours des ingénieurs, il y aura toujours des architectes. Tant mieux, d'ailleurs. Mais il y aura aussi, des entrepreneurs qui veulent, vendre des skateboards ou mettre en place des applications. Peu importe, chacun son projet. Je pense que c'est cette diversité qui fait un petit peu la beauté de la chose. Et il y a aussi l'enseignement, l'éducation de jeunes enfants aussi. Jeannette Vitti, c'est très important.
Exactement.
Et ça aussi, tu es passée par cette période. Ramène-nous un petit peu à cette expérience.
Alors, j'ai toujours adoré les enfants et puis je me suis tournée vers ça. À l'époque, je me souviens, j'étais maman solo et donc j'avais quitté l'ancien job dans lequel j'étais et puis je me suis lancée dans l'enseignement. J'ai été formée pour être éducatrice de jeunes enfants. Et puis, pendant cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. Et à partir de là, je me suis... pendant 10 ans, j'ai travaillé avec les enfants et ça a été vraiment 10 années d'apprentissage. 10 années où j'ai pu m'épanouir avec eux, comprendre l'enfant, ce qui se cache derrière, parce que j'ai adoré ces années où je me suis tournée même vers la psychologie. En fait, c'était plus fort que moi.
Ouais.
Même dans la formation que j'ai suivie, il y avait le volet psychologie. J'étais complètement attirée par cette matière. J'arrivais à voir derrière le comportement des enfants. Parce que en général, on va punir l'enfant, on va se dire... il a fait ça, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, à avoir ce comportement? Donc moi, j'étais super intéressée par ça et j'arrivais à voir ce qui se cachait derrière et je comprenais les enfants. et j'ai apporté une nouvelle, c'est comme une nouvelle pédagogie. J'avais ma manière de faire.
Excellent.
Et les quatre dernières années que j'ai vécues, c'était dans une nouvelle école.
Mmh.
Où j'ai vraiment bénéficié d'une marge de manœuvre, où l'école me laissait carte blanche sur ma manière d'apporter l'enseignement aux enfants. Et il y avait une toute autre approche, tu vois, c'est vraiment de manière intuitive.
Ouais.
Ils savaient lire, déjà en grande section, ils savaient lire. J'ai enseigné également au CP, donc au primaire.
Mmh.
Donc vraiment, ça a été des années riches où j'ai beaucoup appris. Et également, je me suis formée pour donner des ateliers à visée philosophique aux enfants, pour leur poser. Donc, j'ai été formée à Casablanca par l'association Sève, qui est parrainée, qui a été créée par Frédéric Lenoir.
Mmh.
Et puis voilà, on accompagne les enfants à ouvrir une autre perception des choses. Tu sais, les enfants, quand tu leur poses des questions, en général, ils vont répondre à partir des paroles de papa et de maman,
ouais,
etc. Et là, grâce à ces ateliers, en fait, c'était eux-mêmes qui réfléchissaient. Et chacun disait les choses dans le respect, etc. Et puis ça ouvrait leur conscience. Donc ça aussi, j'ai été formée à ça et j'ai donné des ateliers. Ça se passe super bien et les enfants nous surprennent. Hein. Ils sont très, très sages. Hein,
mais bien sûr, on a tellement de choses à apprendre des enfants. Ouais.
Voilà, ils ont une sagesse.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est fou, quoi. Ça me donnait la chair de poule, moi, quand ils me répondaient. Vraiment. Et donc, cette période de l'enseignement m'a permis moi-même de me comprendre également, de comprendre les autres, d'avoir un œil, un nouvel œil, un nouveau regard sur les parents également, et sur la pression que peuvent avoir les enfants à cet âge-là, de devoir avoir des bonnes notes, etc. Surtout que moi, je dirais au lycée, moi, j'étais pas trop école. J'étais plutôt celle qui observait les camarades et l'être humain. J'étais plutôt dans ce truc-là. Et j'étais pas dans les apprendre par cœur, etc. Et,
ouais.
Là, c'est vrai que je leur ai fait apprendre des choses. C'était seulement en poésie avec les enfants au primaire, pour qu'ils puissent bien s'exprimer. C'était surtout pour qu'ils puissent s'ouvrir aux autres, comprendre un texte, savoir ce qui se cache derrière, etc. Et ça les intéressait, ils adoraient. Et c'était de manière ludique.
Ouais.
Et voilà, pour la prononciation, etc. Voilà, bref, j'avais vraiment ma propre manière de transmettre.
C'est excellent.
Ma propre pédagogie.
C'est excellent. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, justement, d'apporter sa propre vision, sa propre méthodologie, parce que, justement, c'est beaucoup plus sincère, je trouve. C'est une démarche beaucoup plus sincère et beaucoup plus authentique. Parce que quand ça se voit qu'on le fait vraiment avec le cœur, avec les tripes, et qu'on n'est pas là en train de rapporter un manuel scolaire ou quoi que ce soit, mais qu'on a vraiment réfléchi, qu'on a mis le temps de faire les choses, les faire bien aussi. Ça, c'est une très bonne chose et c'est tout à ton honneur. Cette fois, le coaching, c'est arrivé à quelle époque, le coaching? Pourquoi? Comment?
Oui, alors c'est vraiment un parcours on a l'impression qu'on passe de l'enseignement maternel et primaire, les parents, etc., au coaching. Le coaching, comment je me suis retrouvée là? Eh bien, comme je te l'ai dit, la psychologie dans la formation que j'avais suivi à l'époque pour être éducatrice de jeunes enfants, m'intéressait beaucoup. Et donc j'ai suivi une formation de coaching et il y a eu également dans cette formation il y avait de l'énergétique, c'est de l'EFT, donc je suis master coach en EFT, et je me suis dit mais en fait ça me parle tellement ça. Ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais pas de mots à l'époque. C'était vraiment de manière très inconsciente que j'étais déjà beaucoup, beaucoup dans l'énergétique sans m'en rendre compte.
Ouais.
Et là, le fait de coacher, d'apprendre le coaching, de coacher, d'aider les gens, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait ça toute ma vie. Je me suis rendu compte que je coachais les enfants. Déjà, tu sais, les réunions parents-professeurs après les trimestres,
ouais.
etc., pour faire le point, ça se transformait en séance de thérapie et coaching.
Excellent.
Je
ne
me rendais même pas compte.
Ouais.
Quand j'expliquais aux parents qu'il fallait pas culpabiliser, quand j'expliquais également comment fonctionnait leur enfant, il y a des parents qui me disaient, mais vous connaissez mieux mon enfant que moi-même. Ça se terminait en coaching, quoi, en thérapie, les réunions, et puis il y avait un timing qu'il fallait respecter, mais
ouais.
je me retrouvais dans ça et je me disais, mais en fait, j'ai fait ça toute ma vie sans m'en rendre compte, que je coachais les gens, que je coachais les gens autour de moi, et voilà, ça a été vraiment vraiment une prise de conscience qui a été accélérée avec des signes, je dirais, où je me suis dit, là, il va falloir que je choisisse vraiment, parce que j'avais pris mi-temps à un moment, j'arrivais pas à décrocher de ce que je faisais, parce qu'il y avait vraiment la peur de me lancer corps et âme dans ça, et j'avais toujours peur, donc je gardais, je me disais, allez, je vais garder un pied là, et puis un autre pied là, c'était vraiment difficile pour moi de faire le choix. J'étais maman solo. Et voilà. Et puis à un moment, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Hein. Je me suis dit, voilà, je vais me lancer. Et puis si je me lance, il faut que j'y aille à 100%. Ouais. Et puis voilà. Là, je suis toujours coach. Je suis toujours thérapeute. Je suis bien dans ma vie aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Pendant longtemps, je me disais, ouais, j'ai les études supérieures, j'en ai pas fait. Tu sais, il y a un moment où j'ai même eu honte, hein, dans ma vie. Je me disais, une période où j'étais honteuse. Enfin, honteuse, je me disais, ouais, j'ai pas fait de grandes études, etc. Et puis, ça n'a rien à voir.
Non,
parce que
je suis d'accord.
Chacun suit. Tu sais, par exemple, dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu... Je sais parler de relations toxiques parce que j'ai vécu ça. D'être maman solo, qu'est-ce que c'est? De lâcher un job stable pour se lancer dans l'inconnu. Je sais ce que c'est aujourd'hui. L'allaitement, je peux en parler. J'ai allaité mes jumeaux pendant 2 ans. La grossesse, j'ai mes lèvres, je peux en parler.
Ouais.
Tout ça, ça m'a forgé.
Et c'est la vie qui apprend ça, c'est pas les bancs de l'école. Ouais.
Tu vois, c'est exactement ça. Ça me permet aujourd'hui de pouvoir aider les gens à leur tour. Et les gens aujourd'hui qui demandent mes services, mais t'en parlais tout à l'heure, c'est des architectes, c'est des ingénieurs, c'est des médecins.
Comme quoi, c'est une continuité logique. Il y a un cercle, en fait, qui se fait. Et je trouve que c'est un cheminement tout à fait... quand ça se fait naturellement... Ça se ressent, le résultat est là, en fait, à la fin.
Oui, exactement. Et puis là, par exemple, là, je pars au Brésil pendant 3 semaines le mois prochain et je peux travailler de là où je suis. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix, cette liberté de pouvoir mais vraiment accepter là où on en est. Aujourd'hui, même par exemple dans un job qui nous plaît pas forcément, parce que on se dit que de toute façon ça va nous amener à quelque chose. Là, par exemple, ce que t'es en train de vivre, ça te prépare pour quelque chose.
Ouais.
Ça te prépare pour quelque chose de plus grand. Il faut vraiment prendre en compte. Il faut pas minimiser ce qu'on fait et vraiment aller au travail et de voir les bons côtés pour les personnes qui sont pas heureuses dans ce qu'elles font aujourd'hui. De vraiment essayer de voir les bons côtés et d'être vraiment de se dire ça va pas durer. Je sais que je suis, on va dire entre guillemets, promis pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose qui va me ressembler. Au final, ça va nous rattraper un jour ou l'autre.
Je suis d'accord.
La vocation pour laquelle on est là, mais il faut vraiment oser. Hein. Il faut vraiment oser.
Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de s'accrocher, en fait. On s'accroche encore plus quand on a cette façon de voir les choses. Mais il faut vraiment le ressentir. Il ne faut pas que, le dire avec des mots, mais il faut vraiment le ressentir. Se dire vraiment que c'est comme ça que ça va se passer. Parce que quand on le ressent, voilà, l'intention est beaucoup plus intense, je pense, et ça nous pousse encore plus vers ce cheminement.
Oui. Bon, en tout cas, c'est pas facile de sauter dans l'inconnu. Moi, il a fallu un gros coup de pied de la vie. Voilà, j'ai fait un accident, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui m'a fait vraiment... Je me suis dit, là, il faut que j'y aille, il faut que je saute là... Il faut arrêter de me mentir. À la fin, j'avais fait le tour. Pour moi, j'avais fait le tour dans l'enseignement. Et il fallait vraiment que je me lance. Et il y a eu un petit coup du destin qui a fait que qu'il y avait des signes parsemés ici et là. Et je me suis dit, là, vraiment, il va falloir que j'y aille. Et je me souviens, quand j'étais encore enseignante en maternelle et primaire, j'avais adoré un livre que j'ai mis, j'ai vu sur Internet, et le titre m'a parlé, et je l'ai mis de côté, les années sont passées, et quand j'ai sauté dans l'inconnu en tant que coach, à cette époque-là, je faisais des guidances, etc., thérapie déjà à cette époque, l'une des premières clientes était l'auteur du livre.
Incroyable.
L'auteur du livre que j'avais mis de côté. Et je me disais, mais ça y est, là, c'est des signes qui se mettent à mon chemin. Et plus l'accident qui a fait que je me suis dit, ça y est, là, ça rigole plus, il faut que je m'y mette, on n'a qu'une vie. Si je continue à traîner comme ça, mais je vais pas être heureuse, quoi.
Tu vas subir ta vie.
Voilà, c'est subir. Et voilà, les coups du destin, c'est des petits signes comme ça. Même l'école où j'ai été super épanouie les 4 dernières années, quand je suis partie pour l'entretien, quand j'ai vu l'école, je savais au fond de moi, je me disais, je sens que je vais vivre des choses extraordinaires dans cette école. Et puis ça, c'est ce qui s'est passé. Hein. Je vois des enfants à qui je dis bonjour aujourd'hui, qui ont grandi et qui me reconnaissent.
Incroyable. Disent, ça fait plaisir, ça.
Ils me prennent dans les bras. Ouais. Hein, je me dis, franchement, je le voyais avec sa petite barbe. Je me dis, c'est pas possible. C'est toi. Il me dit, oui, c'est moi. Parce que je me disais, il m'a accosté dans la rue. Je me disais, mais... C'est qui ? Vraiment des bons souvenirs de tout ce que j'ai vécu. Je ne regrette rien. Excellent. Même si ça a été difficile dans le premier job, même de jongler entre les enfants et le travail, etc. Je ne regrette rien. Et si c'était à refaire, je referais. Vraiment, parce que ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. L'assurance, la résilience, on apprend ça au cours de notre vie. Le leadership, apprendre à maîtriser ses émotions, l'écoute, tout ça s'est développé au fur et à mesure. Tout ça nous forge et nous prépare. À qui nous sommes et à qui nous serons.
Eh bien, Jeannette Bitti, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de te recevoir dans Job Story aujourd'hui, d'en apprendre plus sur ta carrière et ton parcours. Et franchement, c'était un délice de discuter avec toi. Merci beaucoup.
C'est toujours un délice de discuter avec toi.
Merci beaucoup, Jeannette.
Merci beaucoup.
Avec plaisir, à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir, ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.